Festival de Toulouse.
Festival de Toulouse.
Festival de Toulouse, l'invité avec Éric Dupri.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Présence pour une nouvelle rencontre avec l'une des artistes programmées cette année au Festival de Toulouse. Je m'entretiens aujourd'hui avec la chanteuse, comédienne et metteur en scène Magali Thomas, qui est à l'origine d'une des créations de ce festival 2024 dans la tête d'Horowitz. Ce spectacle auquel elle participe est à découvrir ce mardi 9 juillet à 21h à Saint-Pierre-des-Cuisines avec le journaliste Nelson Montfort qui va y officier en tant que récitant. Bonjour Magali Thomas et merci d'avoir accepté cette interview. Et je crois que c'est la première fois que vous allez vous produire à Toulouse.
Alors bonjour, et effectivement c'est la première fois et je suis ravie de me produire au Festival de Toulouse et dans cette ville extraordinaire. Voilà, c'est un grand plaisir.
Je l'ai dit, vous êtes à l'origine de cette création en hommage au grand pianiste Vladimir Horowitz. Vous en avez écrit le texte et vous en signez la mise en scène. D'où vous est venue l'idée de ce spectacle? Est-ce que c'est lié à une passion personnelle pour ce musicien, vous qui avez pourtant une formation de chanteuse lyrique, ou est-ce aussi, voire surtout, parce que sa personnalité complexe et certains épisodes de sa vie vous ont inspiré et donné la matière à un spectacle à la fois théâtral et musical?
En fait, c'est un peu tout ça. Vous avez bien résumé le contexte. Moi, je suis fascinée par les grands personnages, bon, artistiques, musiciens, chanteurs, parce que c'est mon domaine. Mais c'est vrai que j'aime les grandes personnalités. Et Horowitz, de par son talent, bien sûr, de musicien, mais aussi de par sa vie, de par son parcours, est un personnage qui est fascinant et qui se prête à ça. J'ai écrit le texte, mais c'est Horowitz qui m'a guidée. Sa vie est déjà théâtrale. Sa vie et son parcours est théâtral. Donc effectivement, j'ai été fascinée par l'être humain et le musicien aussi.
Il y a un épisode très important dans la vie de musicien d'Horowitz, et même dans sa vie tout court, c'est son retour en concert au Carnegie Hall en 1965, après 12 ans d'interruption. Vous pouvez peut-être rappeler pourquoi il y avait eu ce long coup d'arrêt dans la carrière du pianiste, arrêt qui aurait pu être définitif d'ailleurs.
En fait, Horowitz a eu trois grosses périodes successives de dépression et trois arrêts. Et effectivement, la période avant le retour à Carnegie Hall, la période de 12 ans, a été l'arrêt le plus long. Et effectivement, à chaque fois, ça a été soit, je crois que cette fois-ci, c'est Rachmaninoff qui a essayé de le ramener, ou Toscanini. Il a été entouré toute sa vie de Rachmaninoff et d'Arturo Toscanini, le grand chef d'orchestre italien. Et effectivement, chaque fois, il venait le sortir de sa dépression, donc sachant qu'il refusait de jouer en public, mais il enregistrait quand même à son domicile. Donc il y avait tous les radio qui venait faire les séances d'enregistrement. Mais c'est vrai que l'idée du spectacle, voilà, je me suis imaginé le retour, son retour triomphal sur la scène de Carnegie Hall en 65, effectivement après 12 ans d'interruption, et je me suis imaginé Horowitz quelques secondes avant d'entrer en scène, pris par ses angoisses et son trac qui le dévastait, et l'entrée sur scène d'Horowitz, les premières notes au piano, et j'ai voulu plonger, c'est pour ça que ça s'appelle Dans la tête d'Horowitz, j'ai voulu plonger dans son monde intérieur et essayer d'imaginer ses pensées au moment où il est en train d'interpréter. Voilà, on va commencer par les scènes d'enfants de Schumann, tous ses souvenirs d'enfance de la Russie, des premiers pas au piano, sa mère, les personnages de sa vie. C'est vraiment une immersion dans le monde intérieur d'Horowitz qui va être incarnée donc par deux interprètes, donc par Sergio Monterisi au piano et par le grand Nelson Montfort qui va incarner Volodya, donc le double de Vladimir Horowitz.
Pourquoi vous avez fait ce choix de le faire parler à travers ce double Volodya, sachant que Volodya, c'était le surnom que lui donnait sa femme, Vanda Toscanini, la fille du grand chef d'orchestre?
Parce que je trouvais intéressant, à travers aussi ce personnage d'Horowitz, j'ai voulu aussi dévoiler dans la mesure du possible et avec la plus grande humilité, le monde de l'artiste en général, c'est-à-dire ce que ressent l'artiste quand il est en représentation. C'est-à-dire que l'artiste, quand il est en représentation, il a plusieurs cerveaux. Il y a le cerveau qui est dans le présent, qui est en train de jouer ou qui est en train d'interpréter pour un acteur, donc qui est vraiment basé sur quelque chose de technique. Et il y a le cerveau qui regarde ce qui se passe, le public, et il y a le cerveau presque qui rêve, le cerveau qui s'évade, qui est pris dans une autre dimension, qui ressent ses émotions, qui sont presque, j'allais dire, hors du commun, et je dis pas inhumaines, mais qui se rapprochent plus du divin qu'autre chose. Et c'est vrai que dans le cas d'Horowitz, c'était difficile le retour à la réalité, c'est-à-dire comment supporter le quotidien alors qu'on a été touché par cette grâce, qu'on est parti dans ce monde de la musique, qu'on s'est évadé à ce point. C'est ça qui m'intéressait aussi, de montrer la dualité ou je dis pas la bipolarité de l'artiste, mais ce côté un peu complexe des fois pour l'artiste de vivre la vie et d'apprécier les choses des fois les plus banales et les plus quotidiennes quand on vit des émotions aussi fortes.
Avant de parler de ce que nous allons voir et entendre à Saint-Pierre-des-Cuisines ce mardi 9 juillet, nous allons écouter Vladimir Horowitz et c'est un extrait de ce fameux concert de 1965 au Carnegie Hall à New York où pour son grand retour, le pianiste russo-américain avait joué entre autres la Fantaisie opus 17 de Robert Schumann. Thank you. Le premier mouvement de la Fantaisie, opus 17 de Robert Schumann, joué par Vladimir Horowitz, un extrait de l'enregistrement de son concert lors du retour sur scène du pianiste à Carnegie Hall en 1965. Alors maintenant, on va parler du spectacle, de la manière dont vous l'avez conçu, comment ça fonctionne entre le texte et la musique, entre le récitant et les musiciens.
Alors, il va y avoir des alternances de textes et de musique, et aussi des textes qui vont être dits sur la musique, à certains moments bien précis. Voilà, Nelson Monfort ne va pas intervenir sur les forfaits. Le choix musical aussi, le programme a été fait en fonction du parcours et donc de la narration. On va alterner entre les moments parallèles et les moments de musique seule, et les moments où je vais avoir la voix sur la musique. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment la pensée du musicien en train d'interpréter. Donc c'est un équilibre fragile, mais un équilibre intéressant.
Vous avez fait le choix, vous auriez pu vous contenter de mettre un pianiste, ce qui aurait paru logique, mais il y a en plus le chant et la flûte. Comment ils interviennent dans un spectacle qui est dédié à un pianiste? Quel rôle joue-t-il finalement?
Alors moi, dans ce spectacle, j'ai voulu aussi faire intervenir tous les personnages qui ont marqué sa vie. Dans le récit, Rachmaninoff a une partie importante, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est toutes les femmes qui ont marqué sa vie, que ce soit sa mère, Sofia, donc je vais interpréter une des romances de Rachmaninoff, que ce soit sa sœur, Genia, ou Vanda, ou même sa fille, Sonia. J'avais envie que les personnages prennent vie. Et en ce qui concerne la flûte va un peu évoquer ses démons, ses fantômes, sa voix intérieure. La flûte va intervenir de temps en temps, va le déranger, comme a été de toute façon la vie d'Horowitz. Il y a eu ces périodes de joie excessive et après ses descentes aux enfers, comme il le dit souvent, il dit que ses démons le rattrapent le plus souvent. Et donc la flûte va être là, va avoir une présence constante tout au long du spectacle.
Est-ce qu'il y a des anecdotes ou des faits très peu connus de sa vie qui apparaissent dans ce spectacle?
Alors, je ne sais pas si ces anecdotes sont peu connues ou pas, mais c'est vrai que j'ai essayé d'intégrer quelques notes un peu plus légères, parce qu'il a quand même une vie assez chargée, que ce soit le départ en Russie, l'exil, les dépressions. Mais c'est vrai que c'était un personnage qui avait un côté aussi second degré, qui était assez intéressant. Voilà, donc il y a quelques aspects de sa vie un peu plus, pas comiques, mais un peu plus légers, en tout cas, que j'ai essayé de mettre dans le spectacle, que je ne vous dévoilerai pas, bien sûr.
Non, bien entendu, mais est-ce qu'on peut séparer l'homme du musicien lorsqu'on parle de quelqu'un comme Horowitz, ou est-ce qu'ils sont intimement liés en permanence?
Personnellement, je ne pense pas. L'homme devient l'artiste et l'artiste devient l'homme. Pour moi, l'artiste ne fait qu'un, c'est indissociable. En tout cas, dans le cas d'Horowitz, mais je pense qu'en général, l'aspect humain enrichit l'artiste. Et dans le cas d'Horowitz, effectivement, sa folie, sa façon de jouer peu conventionnelle aussi, fait qu'il est ce qu'il est en tant qu'artiste et en tant qu'homme, effectivement. Donc la force des fois de l'artiste fait la faiblesse de l'humain aussi. L'homme ne va pas sans l'autre. Et c'est un personnage tellement complexe, mais tellement fascinant. Après, avec ses faiblesses aussi, et avec ses côtés, effectivement, son rapport aux autres était difficile. Le piano était l'amour de sa vie. Horowitz n'était pas fait pour aimer un humain. Il ne pouvait pas. Horowitz était foncièrement lié à son piano. Il s'incarnait dans son piano et dans la musique. Et donc, ça lui procurait des émotions tellement fortes que, ne serait-ce que l'amour terrestre était quelque chose de plus banal pour lui. En tout cas, c'est la façon dont je le conçois.
Mais je crois qu'il le disait lui-même au moment où il s'est marié avec Vanda. Il s'imaginait aimer quelqu'un, pouvoir aimer quelqu'un, une femme en l'occurrence, parce que la seule chose qu'il aimait dans la vie, c'était la musique.
C'est ça. Et on sait que Vanda est tombée très amoureuse d'Horowitz et Horowitz avait besoin d'une Vanda dans sa vie. Et je pense qu'ils étaient très liés de toute façon, parce que Vanda a vraiment sacrifié sa vie pour lui. C'est-à-dire qu'elle l'a suivi tout au long de sa vie, elle l'a soulevé quand il était au plus bas. Ça a été un de ses piliers de sa vie, même si elle avait cette réputation d'être un peu autoritaire. Mais je pense qu'Horowitz avait besoin de ça. Il avait aussi été traumatisé par son départ de la Russie, le fait d'avoir abandonné sa mère, de jamais avoir revu sa mère, ni sa sœur, Genia, avec qui il a correspondu tout au long de sa vie, et qui est décédée un mois avant son retour en Russie. Voilà, donc effectivement, il y a des gens comme ça, des artistes aussi, qui ne sont pas faits pour l'amour terrestre. La musique avait une place trop importante dans sa vie. Et c'est un déséquilibre aussi, hein, mais ce qui fait aussi la grandeur du personnage.
Et est-ce qu'il y a, malgré tout, dans la personnalité et l'histoire d'Horowitz, quelque chose d'universel qui est apte à toucher tout un chacun?
En tout cas, je pense au niveau des artistes, oui. C'est-à-dire que je pense qu'il a ce côté, après à différents niveaux, mais il y a ce côté, effectivement, et l'artiste en général, que ce soit le peintre, le musicien, l'acteur, on est souvent dans une autre dimension. Souvent, on lui disait qu'il était dans la Lune. Effectivement, oui, je suis dans la Lune. Il disait, je compte bien y rester. On est entre deux mondes, et c'est ça qui peut aussi paraître un peu, qui peut déranger. Mais je pense qu'il y a quelque chose d'universel. Après, ça reste quelqu'un quand même d'exceptionnel. C'est-à-dire,
oui, c'est un être à part, certainement. Oui.
Voilà, c'est un être à part, c'est une incarnation à part. Et depuis l'enfance, ça a été un enfant prodige, même si ses parents n'ont pas joué la carte de l'enfant prodige, ils l'ont préservé, ils l'ont fait faire ses concerts assez tard, enfin, ils l'ont pas exposé comme l'ont fait d'autres musiciens prodiges. C'est un enfant qui était à part dès le début au conservatoire, ses professeurs déjà critiquaient sa façon de jouer. Il avait 10 ans, il déchiffrait déjà Wagner et il était passionné par l'opéra aussi, il avait une mémoire extraordinaire, c'était quand même un être exceptionnel qu'on rencontre pas tous les jours.
Merci beaucoup Magali Thomas. Je rappelle que votre spectacle musical Dans la tête d'Horwitz est créé ce mardi 9 juillet à 21h à Saint-Pierre-des-Cuisines avec le journaliste Nelson Montfort en récitant ainsi que la flûtiste Carole Debonne, le pianiste Sergio Monterisi et vous-même au chant. Il reste encore des places et j'invite nos auditeurs à se connecter au site www.festival.toulouse.fr pour réserver et acheter leurs billets en ligne. Très bon après-midi à tous à l'écoute des programmes de Radio Présence.